Bon, nous continuons notre étude sur la théologie réformée systématique. Aujourd'hui, nous allons regarder la Bible, le fait qu'elle est la parole de Dieu. On va regarder deux angles principaux. La première, c'est la parole des prophètes et des apôtres est la parole de Dieu. Et la deuxième, l'inspiration par le Saint-Esprit de la parole écrite de Dieu. Nous savons que Dieu a parlé et que tout cela est attesté par Moïse au mont Sinaï, lorsqu'il a rappelé à Israël dans Deutéronome chapitre 5 verset 4, « L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tais alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. » Même si Dieu parle rarement à des groupes de personnes de manière publique, parce que l'idée c'est que c'est trop épeurant, la Bible représente souvent Dieu comme parlant à des prophètes ou à des apôtres, avec qui il communique, pour communiquer sa volonté à l'humanité. Cette révélation spéciale est la base de notre espérance éternelle. Nous pouvons lire cette idée-là dans le livre de l'Épître de Tite, au chapitre 1, les versets 1 à 3 dans la version Sterval. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu, et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, en vue de l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant l'état éternel, et qu'il a manifesté en son temps, par sa parole, dont la prédication m'a été confiée, selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. Proverbe chapitre 30, verset 5, nous lisons « Toute la parole de Dieu est épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. » Puisque la Bible est la parole de Dieu, nous pouvons lui faire entièrement confiance, car Dieu de lui-même dit naturellement la vérité. Il est juste, bon, pur, immortel. Il s'ensuit donc que la parole de Dieu aussi, sort de la bouche de Dieu, est vraie, juste, sans tromperie ni culpabilité, sans erreur ni mauvaise affection, sainte, pure, bonne, immortelle et éternelle. Nous lisons dans Jean chapitre 17, et verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous devons éviter l'erreur de voir certaines parties de la Bible ou des éléments de son enseignement, comme la parole de Dieu, mais en considérer d'autres parties ou éléments comme étant la parole faillible de l'homme. Toute la Bible doit être regardée comme pleinement divine quant à son origine, son caractère, sa vérité et son autorité. Donc on va regarder le premier point, la parole des prophètes et des apôtres est la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu prêchée à travers les prophètes et les apôtres. Lorsque la parole du Seigneur parvenait à ses prophètes et apôtres, leur premier moyen de la communiquer aux autres était l'oral. On va regarder quelques exemples à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Commençons par celui de l'Ancien Testament. On a l'exemple d'Élisée, par exemple, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 7, au verset 1. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. Alors ça dit bien, Élisée dit, mais il dit, écoutez la parole de l'Éternel. On a un autre exemple, Michée, dans 2 Chroniques, chapitre 18, les versets 18 et 19. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth à Galéad et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors on a vu Élisée, on a vu Michée, on va regarder un exemple maintenant, un autre exemple de l'Ancien Testament, Jérémie, dans le livre d'Esdras, le chapitre 1, le verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Alors, on voit que la parole de Dieu est prêchée à travers les prophètes. Elle est prêchée aussi dans le Nouveau Testament. On a l'exemple de Paul, par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc l'exemple de Paul, l'exemple aussi d'Agabus dans le livre des Actes au chapitre 21, les versets 10 et 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Car, parce qu'il dit bien, voici ce que déclare le Saint-Esprit, puis c'est un prophète qui parle. Maintenant, il y a un verset, un groupe de versets dans l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 67 et 70 qui parlent de la même idée pour tous les prophètes de Dieu. Alors ça dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Donc, on a vu la première idée, c'est que la parole de Dieu prêchait à travers les prophètes et les apôtres. Maintenant, on va regarder la parole écrite de Dieu dans l'Ancien Testament. Sur l'ordre de Dieu, la parole révélée et prêchée est devenue la parole écrite. Les paroles prononcées étaient enregistrées ou inscrites. On lit par exemple dans le chapitre 17 de l'Exode, au verset 14, « L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » On va aller un petit peu plus loin dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, les versets 3 et 4. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis, il se leva de bon matin Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Alors on voit bien dans le verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Exode 34, juste un peu plus loin, on va regarder le verset 1 et les versets 27 et 28. Verset 1, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Alors, on voit ici l'idée de l'écriture de la parole de Dieu. Il dit, « J'y écrirai sur les tables qui avaient été données à Moïse. » Dans le verset 27 et 28, on lit, « L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Verset 28, « Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, autrement dit les 10 commandements. » Alors on voit que c'était la parole à travers les prophètes et les apôtres, mais Dieu aussi voulut que tout cela soit écrit. On voit par exemple dans Ésaïe chapitre 30, verset 8, on lit « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. » On voit que l'idée, l'écriture, c'est pour sa demeure. Jérémie, chapitre 30, versets 1 et 2. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Alors, on sait que ce qui est écrit dans les Saintes Écritures se doit d'être accompli. Ainsi, les écrits de l'Ancien Testament ne sont pas simplement des documents humains, mais les saintes écritures. Jésus et les apôtres ne prennent jamais une position critique envers le contenu de l'Ancien Testament, mais l'acceptent totalement et sans réserve. Alors, deux passages, un dans Jean, chapitre 10, verset 35, où le Seigneur dit ici, elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie. Alors Dieu permet que l'Écriture soit, la Bible devienne écrite dans le but que ça ne puisse pas être anéantie, malgré tous les efforts de l'ennemi et des ennemis de Dieu. Luc 24, versets 25 et 26. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors on voit ici que le Seigneur Jésus, déjà avec ses disciples, utilisait la parole écrite de Dieu de l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons la Bible, nous entendons la voix du Dieu vivant. Dans Deutéronome, chapitre 28, les versets 1 et 2, nous lisons, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Alors, l'idée, c'était vraiment que la parole écrite de Dieu de l'Ancien Testament. Maintenant, on va regarder la parole écrite de Dieu pour le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament affirme également être la parole de Dieu en continuité avec l'Ancien Testament. Le Christ place ses paroles au même niveau que les paroles des Saintes Écritures. Par exemple, il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Luc chapitre 24, verset 44, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Luc chapitre 9, verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Matthieu chapitre 17, verset 5, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Des écrits de Moïse aux écrits des apôtres du Christ, la Bible résonne avec l'autorité divine. Ce n'est pas simplement la parole de l'homme au sujet de Dieu, ou un témoin humain de la révélation divine, mais c'est la parole du Seigneur lui-même. Les chrétiens doivent se soumettre à toute la Bible, à la fois aux prophètes et aux apôtres, car par eux parle notre Seigneur et Sauveur. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Donc, on a vu le premier point, nous allons regarder le deuxième, qui est l'inspiration par le Saint-Esprit de la parole écrite de Dieu. Il y a un mystère sur le caractère de la Bible, car elle se compose de paroles humaines qui sont aussi les paroles de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a promis à ses apôtres qu'il leur accorderait une influence spéciale du Saint-Esprit afin qu'ils puissent communiquer les paroles qu'il a dites sur la terre et des révélations plus profondes qu'il leur ferait plus tard. Deux passages, on va les regarder, Jean 14, versets 25 et 26. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, la première idée qu'on va regarder, c'est que la réalité de l'inspiration verbale. Nulle part, la Bible n'indique ni même suggère que Dieu a donné un aperçu, qu'en anglais il appelle ça un insight ou une compréhension générale, au prophète qui a ensuite formulé le message dans ses propres mots. Exode chapitre 4, versets 10 à 12. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, mon Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Deutéronome chapitre 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Jérémie, chapitre 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et il toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. La théologie réformée baptiste Roger Nicole, il a vécu entre 1915 et 2010, a fait l'observation suivante. Les auteurs du Nouveau Testament et le Seigneur Jésus lui-même n'ont pas hésité, à l'occasion, à fonder toute leur argumentation sur un seul mot de l'Écriture de l'Ancien Testament, ou même sur la forme grammaticale d'un mot. C'est un témoignage fort que Dieu a effectivement donné les paroles que ses prophètes et apôtres ont écrites dans les Écritures. Le pasteur et théologien réformé Louis Gosson, lui a vécu entre 1790 et 1863, a écrit dans son ouvrage La théopneustie, ou pleine inspiration des Saintes Écritures, a dit que bien que nous puissions dire que les écrivains sacrés n'étaient que des plumes, des mains et des secrétaires du Saint-Esprit, ils étaient dans presque tous les cas, et à des degrés différents, des plumes vivantes, des mains intelligentes, des secrétaires dociles, touchés parce qu'ils ont écrit et sanctifié. Dieu a mystérieusement gouverné leur processus de pensée et d'écriture, de sorte que sans violer leur humanité, le résultat était la parole de Dieu, exactement ce que le Saint-Esprit avait l'intention de dire. Herman Bavinck, dans son ouvrage Reform Dogmatics, a écrit « La vision correcte de l'inspiration dépend donc apparemment de la mise en place de la bonne relation entre l'auteur principal et les auteurs secondaires. » Donc on sait que l'auteur principal, c'est le Saint-Esprit, l'auteur secondaire, c'est l'ensemble des auteurs que Dieu a utilisés pour écrire sa parole. Deuxième point qu'on va regarder, c'est l'étendue, le sens et les implications de l'inspiration. On va commencer par citer deux passages qui sont très riches pour exprimer la question de l'inspiration des Écritures. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Ici, j'utilise la version Sterval. Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Un autre passage qu'on utilise fréquemment pour parler d'inspiration divine des Écritures, 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21, encore dans la version Sterval. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme à une lampe qui brillait dans un lieu d'ombre jusqu'à ce que le jour resplendît et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été rapportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Alors, comme l'indiquait le titre, on va regarder plusieurs aspects. On va regarder l'étendue de l'inspiration. Alors, on pourrait tout simplement l'appeler l'inspiration plénière et verbale. Tous les 66 livres ont été inspirés de Dieu pour être la règle de foi et de la vie. L'inspiration est plénière parce que toute la Bible est inspirée, elle est verbale parce que les mots eux-mêmes le sont aussi. Maintenant, on va regarder le sens de l'inspiration. Le mot grec théopneustos que Paul utilise pour parler de l'inspiration des Écritures ne contient pas l'idée de Dieu soufflant dans une Bible déjà existante, encore moins dans les prophètes, mais indique que Dieu a soufflé les Écritures elles-mêmes, les produisant par son souffle. L'adjectif théopneustos ne décrit pas l'action de la Bible sur nous, donc la Bible qui nous inspire, mais l'action de Dieu en faisant la Bible, donc la Bible qui devient inspirée parce que soufflée par Dieu lui-même. Le mode d'opération de l'Esprit divin sur l'esprit humain reste aussi mystérieux que son activité de création ou de récréation. Nous devons accepter ce mystère et nous incliner devant le Seigneur. Nous notons également que l'inspiration est un don distinct de l'illumination. Tous les chrétiens jouissent dans une certaine mesure de l'illumination du Saint-Esprit. Mais, comme l'a dit Gosson, il ne faut pas confondre l'inspiration avec un haut degré d'illumination. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux pour les enseigner, comme on peut le lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 45. Mais tous les enseignements chrétiens ne sont pas des paroles inspirées de Dieu. L'illumination se rapporte à l'état intérieur du cœur d'une personne, mais l'inspiration se rapporte à la vérité objective de la parole écrite. L'illumination, en tant que don de notre salut, est un processus continu qui augmente avec la sanctification des croyants. L'inspiration, en tant qu'acte de révélation, vient miraculeusement à des moments divinement désignés pour apporter une parole infaillible de Dieu. On va regarder maintenant les implications de l'inspiration. Les apôtres nous enseignent certaines implications de l'inspiration lorsque nous considérons le contexte de leur déclaration sur les Écritures. Examinons-en sept. La première, la Bible a une autorité divine. Paul a immédiatement suivi sa déclaration sur l'inspiration telle qu'on peut le lire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 en confiant une importante charge à Timothée que l'on peut lire dans le deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 4 verset 1 et 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il a rappelé aux serviteurs de Dieu que le Seigneur a toute l'autorité pour juger les hommes et donc la parole insufflée de Dieu a autorité comme norme de jugement et doit être prêché avec assurance pour rappeler les hommes à lui obéir. Deuxième implication, c'est que la Bible a une véracité divine. Paul a exhorté Timothée à prêcher la parole, comme on l'a lu dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2, qui dans cette épître est appelée la parole de Dieu, la parole fidèle ou la parole de vérité. Le résultat de l'inspiration est que, à cause de l'œuvre de l'Esprit dans et à travers les écrivains humains, les saintes Écritures sont la parole même de Dieu qui ne peut mentir, comme on peut le lire dans Tite chapitre 1 verset 2. Troisième implication, la Bible a une suffisance divine. La Bible a la suffisance divine pour informer notre foi et diriger notre obéissance. Paul a rappelé à Timothée que les écrits sacrés sont suffisants pour équiper les ministres de la parole pour chaque aspect de leur appel à diriger l'Église, comme on peut le lire dans 2 Timothée chapitre 4, verset 17. Par conséquent, au milieu de la montée de la méchanceté et de l'hypocrisie, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Tous les versets 1 à 14 en parlent. Quatrième implication, la Bible a une clarté divine. Paul l'a sous-entendu lorsqu'il a écrit que dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. En tant que parole de Dieu à l'humanité, la Bible a une accessibilité qui permet même aux enfants de comprendre son message fondamental de salut. Pierre dit que la Bible n'est pas pleine de ténèbres pour que seuls les érudits hautement qualifiés puissent la comprendre, mais qu'elle est comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. On peut le lire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Donc, cette lumière qui brille dans un lieu obscur, qui éclaire et qui guide. La cinquième implication, la Bible a une nécessité divine. Paul a enseigné l'inspiration des Saintes Écritures dans le contexte de l'avertissement à Timothée contre la dépravation de l'homme, son amour pécheur pour l'erreur et sa tendance à persécuter ceux qui détiennent la vérité. Pierre parle aussi des dangers des faux enseignants dont les enseignements font appel à notre état de pécheur. Dans un climat aussi hostile, avec des graines de la même corruption qui restent avec nous, l'Église doit avoir une base solide et stable pour sa foi, la parole écrite de Dieu. Sixième implication, la Bible a une unité divine en Christ. Étant donné que toutes les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit, bien qu'elles aient été écrites par de nombreuses personnes différentes au cours des siècles, elles contiennent un message unifié. Paul le résume comme le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Lorsque nous nous souvenons que la majorité des Saintes Écritures que Paul avait en vue à l'époque faisaient partie de l'Ancien Testament, nous voyons que la Bible, du début à la fin, est centrée sur le seul médiateur du salut, notre Seigneur Jésus. Pierre résume également le message de la Bible comme la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Septième implication, la Bible a une efficacité divine. Qu'elle soit utilisée pour enseigner la vérité, réprimander le péché, corriger les pécheurs pour qu'ils se répandent, ou instruire les gens dans la voie de la justice, la Bible est utile, c'est-à-dire profitable. Nous pouvons donc dire que la puissance de Dieu, que c'est la puissance de Dieu, que nul homme ne peut empêcher d'accomplir sa volonté, car la Bible est la parole de Dieu. Le prédicateur de la Bible peut être confiant, même lorsqu'il s'oppose à des enseignants plus populaires et qui semblent réussir extérieurement, car il prêche la parole du Seigneur Christ. Comme le dit Pierre, la lumière des Écritures se lèvera dans vos cœurs par l'influence gracieuse du Christ qui est l'étoile du matin. En résumé, nous apprenons la doctrine suivante de l'inspiration de 2 Timothée 3:16 et de 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. L'ampleur de l'inspiration est plénière verbale, y compris tout ce que les prophètes ont écrit. Le sens de l'inspiration est que la parole de la Bible ne sont pas venues des hommes, mais de Dieu, comme son esprit a exhalé ou soufflé la parole de Dieu par le biais des prophètes. Par implication, la Bible a des propriétés particulières qui la rendent différente de tout autre livre. C'est la parole de Dieu. Elle a donc une autorité, une véracité, une suffisance, une clarté, une nécessité, une unité en Christ et une efficacité surnaturelle. Alors je vois, on pourra au moins deux applications à partir de cette courte étude. Première application, plus que jamais, soyons convaincus de l'infinie solidité des Saintes Écritures et appuyons-nous dessus pour suivre fidèlement Jésus-Christ et avoir la lumière nécessaire pour conduire nos vies de façon intelligente et spirituellement éclairée. Consacrons-lui plus de temps pour la lire, l'écouter, l'étudier, la méditer et la mémoriser. Commençons dès aujourd'hui. Nous serons vainqueurs. Le Seigneur nous l'a promis. Deuxième application. Familiarisons-nous davantage avec toutes les vérités concernant la Sainte Bible. Elle est littéralement soufflée de Dieu, quand on parle d'inspiration plénière et verbale, et prenons plus conscience des implications. Son autorité, son absolue vérité, sa suffisance en matière de foi et de vie, sa clarté, sa nécessité, son unité divine en Christ et son efficacité. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'aimer la Bible de plus en plus et de lui obéir pour sa gloire. Amen.